Et au sommaire, aujourd'hui, une nouvelle rencontre de notre série, une histoire française. Après Jean d'Ormesson, Michel Rocard, Daniel Cohn-Bendit, voici aujourd'hui une femme qui a quitté la vie politique depuis quelques années. Quel regard porte-t-elle sur son parcours, mais aussi sur l'actualité? Les temps ont changé, et voici Arlette Laguiller. Elle a lancé les mêmes slogans comme un disque rayé durant près de 40 ans. Ce fut la petite musique d'une combattante. Que l'on soit d'accord ou opposé à ses idées, à sa révolution, cette répétition est devenue aux yeux des Français une vertu, une constance qui rassure presque dans ce monde politique où règnent de plus en plus les faux-semblants et les volte-face. Avec elle, pas de trahison, mais une authenticité. Ex-porte-parole de lutte ouvrière, 6 fois candidate à l'élection présidentielle, elle a incarné à une époque le vote protestataire. Aujourd'hui, d'autres l'ont remplacée à l'opposé de l'échiquier. Quel regard porte-t-elle sur tout cela? Que reste-t-il de ses combats? C'est au Lila, en banlieue parisienne, chez elle, qu'Arlette Laguiller nous raconte son histoire française, qu'elle a marquée de son empreinte.
Travailleuse, travailleur, oui, je m'adresse à vous en particulier.
Lutte ouvrière, hebdomadaire communiste révolutionnaire, demandez lisez lutte ouvrière.
Je compte être le porte-parole fidèle de tous ceux qui travaillent durement toute leur vie. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes.
Je suis peut-être célibataire parce qu'on ne m'a jamais demandé en mariage.
On ne peut pas faire du bulletin de vote un instrument de changement, mais il peut au moins servir pour exprimer un cri de révolte.
Bonjour Arlette Laguiller.
Bonjour Laurent Delahousse.
Merci d'être avec nous. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu comme ça à la télévision depuis votre retraite politique. Vous n'accordez plus autant d'entretiens. Ça vous manque la télévision?
Quelquefois
quand même.
Non, ça ne me manque pas.
Pas du tout. Ce n'est pas la partie qui vous manque le plus de votre activité?
Non, ça ne me manque pas. Vous savez, j'ai fait de la télévision à chaque élection présidentielle, en fait. Et puis, c'est quand même 40 ans de vie politique. Mm-hmm. Quoi. Donc, beaucoup d'interviews, beaucoup de reportages. Non, je ne peux pas dire que ça me manque.
Alors, justement, on va repartir. 40 ans en arrière, on est le 5 juillet 1974. Vous veniez d'être, pour la première fois, candidate à l'élection présidentielle et vous étiez l'invité d'une émission qui s'appelait « Aujourd'hui, madame ». Et puis, il y avait une téléspectatrice qui avait envoyé un petit courrier parce qu'elle n'était pas très contente que vous soyez invité. On va regarder ça. Et on se retrouve juste après.
De grâce, supprimez l'émission prévue sur Arlette Laguiller, nous écrit-elle. Nous avons suffisamment de désordre et de révolte tout autour de nous, sans encore inviter une révoltée. Je respecte toutes les opinions, les idées, mais j'aspire au calme et à la détente et j'évite d'échauffer les esprits. Aussi, je ne comprends pas que vous donniez tellement d'importance à cette personne qui, elle, ne veut que la pagaille.
Moi, c'est une lettre qui me fait plutôt plaisir. Parce que de toute façon, je trouve que la pagaille, c'est la société actuelle telle qu'elle est.
La pagaille, Arlette Laguiller. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, parfois, d'avoir mis un petit peu la pagaille en France? Parce qu'elle avait peur que vous rajoutiez de la pagaille à la pagaille.
Non, la pagaille... En tout cas, la pagaille que mettent les grandes entreprises en licenciant, on peut appeler ça de la pagaille, mais enfin, moi, je trouve que c'est bien pire que ça.
Certains politiques, aujourd'hui, parlent, évoquent le climat actuel comme un climat pré-insurrectionnel. Est-ce que vous ressentez ça, vous?
Non, je ressens, oui, de la colère.
Différente de celle des années 70-80?
Je ressens de la colère, mais je ressens aussi beaucoup de démoralisation. Et la démoralisation, c'est pas ça qui emmène vers les luttes et vers la révolte. Cette démoralisation, bien sûr qu'elle est due au fait que des gouvernements de gauche n'aient pas du tout appliqué ce que les travailleurs, ce que les plus pauvres qui avaient voté pour eux espéraient.
Donc une forme de résignation plutôt que de colère.
Résignation, de toute façon, la colère, ouais. Ça surprend tout le monde, même les révolutionnaires. On l'a vu, vous savez, en 68, on l'a vu très souvent dans l'histoire. Et donc cette colère, elle est rentrée aujourd'hui, mais elle peut très bien exploser demain, bien sûr.
Alors une petite explication en introduction. Merci de nous accueillir ici, chez vous. On est donc au Lila.
au Lila, dans le 93.
Ça fait combien d'années que vous vivez ici?
Alors, au Lila, j'y ai vécu une grande partie de ma jeunesse. Ouais. Et puis ensuite, je suis allée habiter à Paris, dans différents endroits. Et je suis revenue ici.
Au même endroit?
Alors, ici, au même endroit, c'est depuis 1991.
Finalement, c'est un petit peu l'endroit où je suis née. Parce qu'avant, qu'il y ait ces grands immeubles en face de tours, finalement, tout ça, c'était des petits pavillons. Un peu du genre
de ceux là-bas.
Là, c'était par exemple le terrain où on allait jouer quand j'étais gosse. L'école, elle est derrière, bien plus loin. On aimait surtout jouer dans la rue. Enfin, à l'époque, il y avait des petits jardins et on jouait beaucoup à l'extérieur. J'avais beaucoup de camarades. On aimait se retrouver et jouer. C'est exactement l'endroit où j'ai vécu toute ma jeunesse, sauf que les petites maisons étaient supprimées, remplacées par des tours et des grands immeubles.
Il y a une forme de nostalgie ? D'une époque révolue, d'une France différente?
Non, parce que vous savez, dans les logements dans lesquels j'ai vécu, dans ce même quartier, ouais, étant petite fille avec mes parents, on n'avait pas de douche, on vivait à cinq dans une pièce cuisine.
Donc plus de confort.
Là, c'est beaucoup plus de confort.
Vous me dites que vous avez passé des années et des années ici, au Lila, dans ce quartier, même dans cet immeuble. Vous avez voyagé un peu, Arlette Laguiller?
Alors, voyager, j'étais beaucoup en Europe.
Vous n'avez pas été en Russie?
J'ai jamais été en
Russie.
Jamais
à Moscou?
Non, jamais.
Jamais.
Jamais. Jamais.
La patrie de Lénine et Trotsky n'a pas vu Arlette Laguiller?
Et non, j'ai pas eu l'occasion. Et voilà, la vie a passé, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, quoi. Mais de toute façon, il en reste pas grand-chose de.
Pas les États-Unis non plus.
Ni de Lénine, ni de Trotsky.
Plus grand-chose aujourd'hui, mais historiquement, peut-être qu'on aurait pu imaginer qu'Arlette Laguiller aille un jour à Moscou.
Mais vous savez, je militais, je travaillais, je gagnais ma vie, et c'était pas si facile à la fois d'assurer. Mon gagne-pain, d'assurer aussi mon engagement militant, syndical et politique, et de faire des grands voyages. Alors, je m'étais dit, quand je serai à la retraite, alors là, je vais en faire. Et finalement, j'en fais pas tant que ça, parce que, d'abord, l'activité, elle est toujours là. J'ai pas laissé tomber complètement mon parti. J'essaye de transmettre aux jeunes générations ce que j'ai vécu, ce que je sais, et de les aider.
Donc, la retraite d'Arlette Laguiller. Il n'y a plus ce rôle de porte-parole, de lutte ouvrière, effectivement, mais au quotidien, vous faites des choses que vous n'avez pas pu faire pendant toutes ces années ou pas? Parce que, on va
un
rappeler...
Un peu plus de gymnastique, des choses comme ça.
Ce vélo d'appartement que le Crédit Lyonnais vous a offert pour votre retraite, il était sur le balcon, il n'est plus là.
C'est Crédit Lyonnais, c'est mes collègues.
Ah, vos collègues. Ah oui, donc, vos collègues du Crédit Lyonnais.
Le vélo d'appartement, il est toujours là. Là, on l'a mis sur le balcon, mais il est toujours là. Mais non, c'est un vrai vélo qu'il m'avait offert.
On va revenir juste un petit peu en arrière également. Ce quartier, Lila, avec vos parents, votre père, Louis. Qu'est-ce qu'il faisait, Louis? Qu'est-ce qu'il faisait, votre père?
Alors, mon père, il a été employé d'assurance avant la guerre, mm-hmm, et puis fait prisonnier en 40, libéré sanitaire fin 42. Et du coup, il a fait ce qu'il a pu. Il a été malade souvent. Il est revenu malade, en fait. Ouais. Il s'en est jamais complètement remis de ces années de prisonnier. Et puis, il a fait ce qu'il a pu. Il a été au chômage. Il a travaillé, fait des remplacements à la SNCF.
Il
a fait
politisé.
Tous les boulots qu'il pouvait faire pour gagner
politisé.
Un peu d'argent. Oui, il était politisé.
Plutôt quoi? Plutôt à gauche? Anarchiste?
Oui, il était à gauche. Je dirais plutôt, si on peut dire anarchiste dans le sens d'une liberté, parce qu'il n'a jamais été encarté, mais il était, disons, peut-être entre le PC et les anarches.
Il vous a transmis quelque chose? Vous lui ressemblez?
Il m'a transmis le goût de la discussion politique, surtout.
Il serait fier de vous?
Je crois. Il m'a vu une fois seulement à la télévision en 73, l'année où il est décédé. Et il m'avait dit, c'est pas mal ton intervention, mais t'aurais dû plus parler quand même du fait qu'on nous roule avec les indices d'augmentation des prix, que c'est pas des vrais indices. Enfin, il y avait quelque chose pour lui.
Déjà, tout de suite.
Qui n'avait pas été dit.
J'ai eu le temps de leur dire après.
Il était quand même content.
Votre père, c'était un ancien séminariste?
Il a été séminariste, c'est vrai.
Ouais. Et donc, vous avez été baptisé?
Oui, tout
à fait. Vous avez
fait
le catéchisme?
Oui. Oui, oui.
Et vous êtes devenu très vite athée,
oui,
complètement.
Je crois que j'ai
aucune
jamais
croyance.
Cru. Je crois
c'est
que
vrai.
Non, sincèrement, ça me faisait rigoler, si vous voulez. J'y croyais pas, c'est sûr. Mais enfin, comme ma mère était catholique, donc on faisait ça. Et mon père, ça doit être aussi l'influence de mon père, parce que mon père est devenu très très athée, très laïque après avoir laissé tomber le séminaire.
Et vous avez tout de suite cru que la religion était l'opium du peuple?
Un peu. L'opium du peuple, ça c'est plus venu quand j'ai connu les lectures que j'ai faites avec Marx, ouais. De Marx, mais pour moi, c'était une vie rétrécie, quoi. Moi, la vie, je pensais que c'était sur Terre qu'on devait la vivre et la faire la plus belle possible et pas attendre.
Déjà voilà, matérialiste. Ouais. La religion peut être parfois un moyen de compenser un vide ou de compenser des moments difficiles de la vie. Vous ne priez jamais ?
Non.
Aucun recours.
J'ai prié quand j'ai fait ma communion, sûrement, je ne me rappelle plus très bien. Moi, la religion, ça m'inquiète plutôt parce que, à notre époque, là, aujourd'hui, puis ça a été vrai dans d'autres périodes, c'est plutôt à des intégrismes religieux qu'on assiste et qui sont peut-être une forme de. Pour les gens qui ne se sentent pas bien dans leur peau, je ne sais pas, mais moi ça m'inquiète plutôt que
des gens aillent
se faire tuer au nom du Coran ou au nom de la Bible, qui pour moi sont des écrits inventés. Donc non, franchement, je n'ai pas besoin de la religion, quoi. Ma religion, c'est l'humanité, c'est la vie en société, c'est ça ma religion.
On va continuer de feuilleter votre roman à vous, votre histoire. Au début, vous vouliez faire des études de littérature ?
Je voulais faire des études, tout bêtement, je ne savais pas trop ce que... Mais je voulais faire des études, puis on n'avait pas les moyens de me payer des études. Donc j'ai essayé l'école normale, j'ai été boulée, j'ai pas... Voilà, et du coup j'ai travaillé, j'avais 16 ans et j'ai travaillé.
À 16 ans, vous commencez à travailler et vous intégrez le Crédit Lyonnais.
Tout à fait. Oui.
Déjà, très vite, vous allez occuper un poste de mécanographe.
Oui.
C'est quoi mécanographe? Je suis désolé.
On passait des chèques dans des machines qu'on appelait... on disait qu'on était mécanographe, voilà.
À l'époque, quand vous arrivez au Crédit Lyonnais, vous avez déjà lu Karl Marx ? Vous avez déjà cette culture-là ? Vous avez
pas
déjà...
du tout.
Pas du tout. À 16 ans, pas
en
encore.
En 56, à 16 ans, non.
Non.
Non. Je rencontre un peu des gens politisés dans mon agence en 57. C'est la guerre d'Algérie. Je suis très marquée par la guerre d'Algérie avec... les jeunes de mon quartier qui ont peur d'être envoyés là-bas, on lit l'Express, on lit les livres sur la torture qui circulent sous le manteau. Comme
donc le déclenchement, c'est la guerre d'Algérie, finalement.
C'est la guerre d'Algérie.
À Alger, l'atmosphère est tendue, irrespirable. Les nouvelles les plus folles circulent, provoquant de brutales flambées de haine sur fond sonore de plastique.
C'est le PSU qui se positionne comme anti... qui s'oppose à ce conflit. Et donc, vous allez finalement adhérer assez naturellement d'abord au PSU.
Oui, parce que la première manifestation importante que je fais contre cette guerre, c'est l'UNEF qui l'organise en octobre 1960.
Devant le palais de la Mutualité, au rendez-vous de l'UNEF, 15 000 étudiants étaient venus pour participer à un meeting réclamant une paix négociée en Algérie. 3 000 agents y étaient également venus pour faire respecter l'interdiction de manifester dans la rue. Bilan, une centaine de blessés qui n'étaient pas tous étudiants.
Quand je rentre chez moi, bon, on s'est fait un peu courser, tabasser par la police. J'apprends qu'il y a des militants du PSU au Lila que je ne connaissais pas et donc je vais adhérer au PSU.
Il y a aussi cette notion d'injustice au quotidien. Est-ce que le fait que, je le disais, que quand vous étiez jeune, vous alliez en bas faire les courses et qu'il y avait une petite liste avec... les comptes, les notes, l'argent qui manquait, les difficultés.
Oui, on ne payait pas, on payait à crédit. Oui, bien sûr, j'étais très sensible à la pauvreté, mais parce que je la vivais, on était vraiment pauvres.
Quel est votre plus ancien souvenir d'Arlette ?
C'est le temps où on allait à l'école, c'est le temps où on jouait ensemble dans la rue, dans la cité ouvrière où on vivait. Ce qui m'a frappé quand on était enfant, c'est le sens des responsabilités qu'Arlette a eu jeune. À la fin de la guerre, son père était revenu malade des camps de prisonniers. Et sa mère elle-même avait été traumatisée pendant la guerre. Et Arlette, elle a pris en charge ses frères. Elle s'occupait d'eux, disons, comme une grande personne. Ce qui lui inspirait, disons, l'estime des gens du quartier, qu'il appelait la petite mère.
C'est vous qui, à un moment donné, avez pris les choses en main dans la famille.
J'ai raconté dans mon livre, à 16 ans, j'avais même pas un manteau. C'est ma voisine qui m'a prêté un imperméable pour aller travailler. Donc oui, j'ai connu ces difficultés qui m'ont sûrement amené à être de gauche et d'extrême gauche, quoi. Il n'y a pas de souci. En plus, j'ai connu quand même au Crédit Lyonnais tout ce qu'on connaît quand on commence à travailler, le fait que nous, les jeunes, on n'est pas très payés. Il y a ce qu'on appelait les petits chefs, enfin, qui sont sur notre dos, etc. Donc je connais l'exploitation, qui n'est pas celle des usines, évidemment. Mais quand même, je prends conscience que faire la grève, c'est normal. Revendiquer, c'est normal. C'est aussi mon expérience de travail.
Et vous allez passer votre existence, votre vie professionnelle entière au cœur de... l'ennemi, la banque, le capitalisme, voilà, c'est quand même quelque chose qui est symboliquement fort.
Oui. Pas avec l'idée que j'allais la détruire de l'intérieur.
Mais vous avez cru à un moment donné ou pas ? Vraiment, que cette révolution, que cette colère que vous aviez en vous, vos idées allaient gagner.
Je le pensais, oui, je le pensais, oui. En plus, quand j'avais 20 ans, on avait quand même l'exemple de 1936, qui était une révolution ratée, en quelque sorte, mais quand même... avec tous les prémices et tout un début de montée révolutionnaire, avec la guerre d'Espagne en même temps. Enfin, moi, j'étais élevée dans cette culture-là, quoi. Oui, bien sûr, je le pensais. En plus, j'ai vécu 68. J'ai vu comment les mêmes gens qui étaient résignés, qui acceptaient tout dans l'entreprise, brutalement étaient capables de se révolter, de s'organiser... Et ça, ça m'a donné énormément confiance dans la force des travailleurs pour changer la société.
J'en reviens aux études, la littérature, finalement la banque. Quand je regarde autour de nous, derrière vous, il y a Lénine, beaucoup de livres sur le communisme. À quel âge vous lisez Karl Marx ? À quel âge vous vous dites, voilà, je vais me plonger dans cette littérature ?
Je commence à lire non seulement Marx, mais Plekhanov, mais Engels, mais Rosa Luxembourg. J'ai 23 ans. Quoi.
Ça vous guide idéologiquement, très vite, vers Hello. C'est Hello qui vient à vous, c'est vous qui allez vers Hello.
C'est un peu le hasard de la rencontre. Ouais. Un camarade qui en rencontre un autre, qui est trotskiste, qui est à Voix ouvrière à l'époque et qui m'amène à leur déjeuner. Voilà.
Lutte ouvrière, hebdomadaire communiste révolutionnaire, demande Élisée Lutte ouvrière.
Moi, mon problème, c'est que je me sentais communiste dans le sens... du partage, dans le sens de défense de la classe ouvrière, mais j'avais un problème là avec l'URSS. C'est le stalinisme qui me posait un problème. Et 56, d'ailleurs, ça a été important pour moi quand même si à l'époque je militais pas, à cause à la fois de deux choses importantes, la révolution hongroise, les conseils ouvriers de Hongrie, donc contre le gouvernement communiste, et puis de l'autre côté, Nasser qui nationalise le canal de Suez et Israël, la France, l'Angleterre qui l'attaquent pour ça. Et voilà, c'était les deux mondes dans lesquels je ne voulais pas être, ni celui du capitalisme et de l'impérialisme, ni celui du stalinisme. Et quand ma grosse découverte, c'est Trotsky. Et à partir de là, pour moi, c'est clair, on peut être communiste en étant donc trotskiste et donc en sachant que le communisme, ça a été une caricature, ce qui s'est passé là-bas, hormis la révolution, qui a existé, bien sûr, et des révolutions depuis, on en a vu d'autres, qui étonnent toujours. On peut parler des révolutions arabes, qui auraient prévu qu'il y aurait eu des révolutions en Tunisie, même, je discute même pas de ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, ça aussi, si vous voulez, pour moi... on sera toujours surpris par les révolutions et par les masses qui commencent à se mobiliser.
On est en train de célébrer, il y a quelques jours, une semaine, jour pour jour, les 25 ans de la chute du mur. Vous êtes où le jour où le mur tombe ? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous, sincèrement ?
Sincèrement, pour moi, ça n'a jamais été le communisme. En Allemagne de l'Est, évidemment, c'était le stalinisme également.
Au nom du communisme, on avait conduit
voilà,
à ça.
C'est ça, on avait mis ce mur. Et bon, oui, j'étais contente que le mur soit tombé, c'est évident. On ne pouvait pas être trotskiste, anti-stalinienne, ne pas être contente que le mur tombe. Maintenant, je vous dirais des murs, je ne sais pas combien il y en a dans le monde, 200 murs au moins qui existent.
Justement, il y a un pays.
Entre les États-Unis et le Mexique, entre Israël et la Palestine, tous les murs même qui sont les empêchements pour les étrangers d'entrer dans tel ou tel pays. On est loin d'être sortis des murs.
On va regarder une photo de vous, rare. Moi, je l'ai découverte en tout cas. Vous avez 20 ans. Vous avez cette petite robe Vichy, les cheveux mi-longs. Quand vous la regardez, cette jeune Arlette Laguiller, vous pensez à quoi ?
Ah ben, je pense que la jeunesse, c'est magnifique. De toute façon, vous savez, c'est le début de ma rencontre avec les idées révolutionnaires. En même temps, j'adore le jazz, donc je sors pas mal. Enfin, je vais écouter de la musique, tout ça. Voilà, c'est formidable, quoi. Tout est ouvert.
Vous avez été une grande amoureuse, Arlette Laguiller.
Oui, je le suis toujours.
Toujours?
Oui, il n'y a pas de souci.
Ah, vous l'avez toujours été. Fleur bleue, un peu?
Fleur bleue, non, je dirais pas ça. Une femme libre de ses choix, voilà.
Vous avez eu le temps d'aimer au milieu de vos combats?
Oui, bien sûr, bien
ouais.
sûr.
Ouais. Est-ce que l'amour aurait pu, à un moment donné, vous détourner de votre chemin politique?
Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Je crois pas. J'ai toujours su rompre.
Incroyable
quand...
cette réponse. Hein. Vous vous rendez compte qu'elle est incroyable. C'est-à-dire que.
Je sais pas, mais non, je crois pas, franchement. Non.
On va écouter un extrait qui date du 4 février 2003. Extrait d'une interview, celle de Robert Barcia, alias Hardy. C'était son pseudonyme. On va revenir sur lui juste après, mais on va d'abord écouter et regarder.
Les militants de lutte ouvrière, y compris la plus célèbre d'entre eux, n'auraient le droit ni de se marier ni d'avoir des enfants.
Alors nous sommes pour la libération de la femme. Et le mariage est une forme d'aliénation de la femme. Nous disons à nos camarades, bon, bah, faut savoir que si tu milites de telle façon, tu vas avoir des enfants, des problèmes en ayant des gosses. Maintenant, on ne l'interdit pas.
Alors, Arlette Laguiller, c'était qui Hardy? C'était qui Robert Barcia pour vous?
Pour moi, c'était le... Enfin, avec Pierre Bois, c'était...
Le leader.
C'était les deux camarades qui avaient le plus d'expérience, qui avaient milité pendant la guerre. Robert Barcia, Hardy, donc, avait fait de la prison sous l'occupation. C'était les seuls un peu militants qui avaient... Dans lutte ouvrière, qui avait connu tout ça et qui avait donc une toute autre expérience que nous qui arrivions, nous les jeunes. Quoi.
Robert Barcia dirige donc lutte ouvrière, dont le vrai nom est l'Union communiste. Mais de ce parti, les Français ne connaissent depuis 30 ans qu'un seul visage.
Comme candidate à la présidence.
Sélectionnée par la direction.
Nous voulions choisir une femme, nous voulions choisir une travailleuse qui ne soit pas une intellectuelle. Nous souhaitions d'ailleurs qu'Arlette Laguiller plaise. Oui, peut-être, mais parce qu'elle disait, parce qu'elle faisait, hein, et plaise aux femmes plus qu'aux hommes.
En gros, vous répondez quoi à ceux qui ont dit que c'était un coup marketing de prendre une femme à l'époque?
C'était vraiment de la blague. D'ailleurs, je peux le dire maintenant, parce que c'est quelqu'un qui milite plus, mais il y a le choix a été entre moi et une autre femme, d'ailleurs, qui était mariée, qui avait deux enfants, et qui travaillait dans la chimie.
On a l'impression que quand vous rentrez en politique, à lutte ouvrière, c'est une forme de sacerdoce, quoi. C'est être à l'avant-garde du prolétariat, militer pour cette révolution qui arrive. Une vie de militante, ça...
Vous croyez que de suivre les idées de l'homme que vous aimez ou ses choix,
les hommes,
c'est forcément libérateur? Moi, je crois pas. Donc, quel sacerdoce? Je vis la vie que j'ai envie de vivre.
Vous refusez cette idée d'être devenu un peu... entre guillemets, une religieuse politique, parce que ça demande une certaine forme de contrainte, d'ascétisme.
Mais pourquoi contrainte et ascétisme? Enfin, chacun a son libre choix de militer, d'aimer, de ne pas aimer, de se marier, de ne pas se marier, d'avoir des enfants... Enfin, je ne comprends pas pourquoi on dit ça.
Parce
honnêtement,
que vous savez,
je ne comprends pas.
Vous le savez.
On n'est pas des bonnes sœurs laïques, on n'est pas ça. Je ne sais pas, on ne peut pas imaginer ce que c'est un parti, ce que ça veut dire de dévouement, mais en même,
ça a été votre famille.
En même temps de fraternité.
Cette équipe-là, ça a été votre famille. Ça s'est substitué un peu aussi.
Non. Ma famille, j'ai gardé mes liens avec ma famille, en tout cas avec celle qui est encore vivante. Donc, je ne me suis pas coupée de ma famille, non, ça, c'est de la blague, ça. Moi, j'ai fait des choix de ne pas fonder une famille, si c'est ça que vous voulez dire. Bah oui, c'est un choix, comme des tas de gens le font.
On peut revenir juste sur cette idée du pseudonyme. Pourquoi cette idée de pseudo? Ça sert à quoi?
D'abord, à protéger un peu nos camarades d'entreprise. Nos militants, s'ils étaient connus, se faisaient licencier. que voilà, c'était, y avait de la répression et donc voilà, on ne laissait pas traîner les noms de nos militants.
En même temps, Lénine, Trotsky, ce n'était pas leur vrai nom. Eux aussi avaient fait ce choix-là du pseudo.
Vous savez, après, nous, comme on s'est présenté beaucoup aux élections, les pseudonymes, ils ne servaient plus à grand-chose.
Trotsky, c'était votre héros? C'est lui qui a été aussi, à un moment donné, l'un des facteurs, l'un des hommes qui a fait que vous êtes devenu ce que vous étiez?
Oui, parce qu'il m'a redonné espoir dans ce qu'aurait pu être le communisme et pas le stalinisme et pas la dégénérescence d'une révolution. Donc c'était ça.
Son vrai nom,
puis,
c'était...
En même temps... Lève Davidovitch Bronstein.
Bourgeois, comme quoi parfois la bourgeoisie peut enfanter de belles choses.
Vous savez, Marx aussi venait de la bourgeoisie, heureusement, parce que d'où sortent les intellectuels, hein? Rarement des milieux ouvriers, en général c'est des milieux bourgeois. Et les intellectuels qui choisissent le camp de la classe ouvrière, le camp de lutter contre l'exploitation, bon, bah, ils peuvent être effectivement de milieux bourgeois.
Oui. Et lui avait quelque chose de différent, quelque chose de puissant intellectuellement, qui était en adéquation totale avec ce que vous pensiez.
Oui, en plus, c'est un immense écrivain, de mon point de vue. Et puis, pas seulement, enfin, c'est le courage personnel. C'est terrible, quand même, terrible d'avoir mené une révolution et de se retrouver évincé, exilé, fuyant, non seulement devant les sbires quand vous voyez Staline pour l'assassiner, et qu'il a fini par réussir à faire... Tout ce courage, sans abandonner une seule fois ses idées, moi, pour moi, si vous voulez, c'est un exemple. Vraiment, c'est un exemple.
Il y a un pays qui est proche de votre idéal aujourd'hui, dans le monde?
Non, je ne pourrais pas dire ça, puisque la tentative du communisme a raté en URSS. Que moi, je n'ai jamais considéré que la Chine était un pays communiste. D'ailleurs, c'est tout un... Vous savez, j'ai vécu tous ces débats avec les maoïstes à une époque. Non, ça ne m'empêchera pas...
Le fait qu'il n'y en ait pas est quand même assez inquiétant.
Non, ça ne m'inquiète pas. C'est vrai que le capitalisme qui a été, disons, à ses débuts, quelque chose de progressiste, en réalité...
Et il a gagné le capitalisme.
Et il a gagné, mais là, il est en train de perdre. On va vers la barbarie. Que ça soit quand on voit de nouveau... Vous savez, on parle beaucoup de la guerre de 14 en ce moment, et c'est bien, mais quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe en Irak, avec EI, etc. Non, non, le capitalisme, il n'a pas gagné, il n'a pas réussi à faire que sur l'ensemble de la planète, alors qu'on a des possibilités matérielles, techniques, de nourrir tout le monde, de lutter contre le réchauffement climatique, si on veut, de faire une société merveilleuse où tout le monde aurait du travail, peut-être par période, mais ça ne fait rien, on ferait des choses intellectuelles l'autre période, mais on pourrait créer une société complètement différente. Pour moi, aujourd'hui, et mon inquiétude et mon envie de continuer quand même à militer, c'est ça, c'est que je pense qu'on va aller plus vers la barbarie si la classe ouvrière, pas seulement ici dans ce pays, mais dans tous les pays, ne se révolte pas pour changer la société à l'échelle mondiale.
On va revenir sur la classe ouvrière. Vous avez croisé plusieurs candidats durant vos différentes campagnes présidentielles. Il y en a un qui fédère à un moment donné chez vous beaucoup d'animosité, c'est François Mitterrand. Pourquoi ?
Ah ben quand même, François Mitterrand, on nous le présente comme un socialiste. Bon, c'est quand même un de ceux qui a été pour la guerre d'Algérie. Ses paroles célèbres, l'Algérie, c'est la France.
Donc ça date de la guerre d'Algérie, plus que de 1981.
Puis même d'avant. Il a participé à des gouvernements de droite avant. Il était ministre de l'Intérieur quand on tuait Fernand Yvetot, le militant communiste à Alger.
Vous êtes en train de me dire qu'en gros, il était traître à la cause, quoi. C'était un usurpateur de
Moi, j'ai dit que c'était un socialiste de fraîche date quand j'ai fait ma campagne de 81.
Tout le passé de Mitterrand incite à la défiance, car il a déjà changé de parti, il a déjà renié ses promesses, mais il a toujours défendu, quand il était au gouvernement, et il y a été longtemps, les intérêts des industriels et des banquiers.
J'ai finalement appelé à voter pour lui, disons,
2,3%
par solidarité avec la classe ouvrière qu'on pouvait plus de cette droite qui gouvernait depuis 25 ans, qui avait envie de changement.
En 2012, vous avez voté au deuxième tour?
Non.
Non. Pas de choix entre François Hollande et Nicolas Sarkozy? Impossible.
J'ai pas voté, non.
Non.
Non, non. Non, je pense que là aussi... Moi, j'ai mis en garde, j'ai dit, il ne fera pas mieux. Et si la crise continue et s'accélère, ça peut même être pire.
Parce que bilan, aujourd'hui, à deux ans et demi, après deux ans et demi.
Politique, oui. Mais il y a aussi cette crise économique qui n'en finit pas.
François Hollande qui fait de la finance son ennemi dans son discours, vous vous en souvenez, au Bourget, à ce moment-là, vous ne le croyez pas. Et aujourd'hui...
Je le crois encore moins, oui, ça c'est sûr. Écoutez, tous les sacrifices qu'on est en train de demander aux travailleurs, aux plus pauvres, qu'on est en train de revenir sous l'égide du patronat, sur des tas de droits qui concernent les travailleurs, sous un gouvernement soi-disant de gauche, l'argent qu'on pique ici ou là, même sur les allocations, sur ceci, sur cela, tout ça c'est fait pour donner au grand patronat. Hein. Et on le sent d'ailleurs, c'est la politique de Mitterrand, c'est celle de Valls, tout pour le grand patronat, et rien pour les travailleurs et la classe ouvrière qui va devoir se serrer la ceinture, nous dit-il.
Si vous aviez une définition de ce pays, vous savez, on s'est interrogé sur la France, les Français, l'identité. Si vous aviez, vous, une définition de la France, ça serait quoi ?
Voilà, la France, je la rêve comme un grand melting pot égalitaire. Voilà, c'est ça qui serait super.
Vous, ça veut dire quelque chose d'être française ?
Bah, c'est le pays où je suis née, où je vis. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais dire vive la France quand Hollande va aller avec ses militaires dans tel ou tel pays d'Afrique.
Le drapeau bleu, blanc, rouge, ça veut dire quelque chose pour vous ?
Moi, je ne m'incline pas devant le drapeau bleu, blanc, rouge. Il est trop souillé du sang de la colonisation. Donc pour moi, je reste fidèle au drapeau rouge des ouvriers du monde entier.
Vous parliez tout à l'heure aussi de la classe ouvrière. Aujourd'hui, la classe ouvrière a évolué sur le plan électoral. Il y a 25 ans, vous vous étiez retrouvé en face d'un homme qui s'appelait Jean-Claude Martinez. Il était député du Front National. Et à l'époque, déjà, lui voyait dans votre combat des similitudes avec le sien. Il évoquait cette question avec vous et apparemment, ça vous a mis en colère à l'époque. Écoutez.
C'est 3% de votre sincérité, de votre pêche, de votre foi qui sont aussi les nôtres. Si ces 3% rejoignent
notre grand
rassemblement...
Non, moi, j'ai pas la foi, monsieur.
Mais si vous avez
la conviction de vouloir défendre le camp des travailleurs, quelqu'un qui est attaqué par tout le monde, y compris par monsieur Le Pen.
Mais pas du tout,
Monsieur Le Pen, il est anti-ouvrier, il est contre les fonctionnaires, contre les syndicalistes,
si vous rejoignez notre camp, contre le
monopole
des syndicats,
c'est-à-dire une partie de la classe ouvrière.
Madame Laguiller, écoutez, moi j'ai presque envie de vous dire tellement j'ai l'affection, appelez-moi Jean-Claude, je vais vous appeler.
Oh, bah
ah oui, je me souviens qu'elle avait dit ça, c'est bon.
Rejoignez notre camp et nous ferons la grande révolution le 24 avril. Vous allez gaspiller 500 000 voix et nous pouvons tout changer, Madame Laguiller. D'ailleurs, je vous ai amené un cadeau, je vous ai amené mon livre, Les 100 premiers jours de Jean-Marie Le Pen à l'Élysée.
Oui, bah vous pouvez
et
vous le garder, verrez. Monsieur.
Mais non, Madame Laguiller.
Vous pouvez le garder.
Mais non, Madame Laguiller.
Vous étiez en pleine forme, hein.
C'est bien quand on me met en colère, c'est bien.
Oui, non, mais vous étiez bien en colère. 25 ans après, aujourd'hui, quand on regarde les résultats des dernières élections, 43% des ouvriers ont apporté leur voix à Marine Le Pen. Ça provoque quoi en vous ?
Je pense que les ouvriers qui votent Marine Le Pen, ils se trompent, ça c'est évident. Alors 43%, il y avait déjà sans doute des ouvriers qui votaient à droite et qui peut-être aujourd'hui se réfugient dans le vote FN.
Comment vous l'expliquez ? C'est-à-dire que quand Jean-Claude Martinez dit que votre combat est le sien, ça vous met en colère. 25 ans après, aujourd'hui, le Front National est devenu finalement le premier parti ouvrier de France.
Oui, ben, il a réussi sa démagogie qui vise à faire croire qu'il pourrait être dans le camp des pauvres, des travailleurs, alors qu'en réalité, c'est un parti pro-capitaliste, bourgeois, et qui, si demain Marine Le Pen était au pouvoir, mènerait la même politique sans doute qu'à Sarkozy ou à Hollande, encore plus dure vis-à-vis des travailleurs.
Elle est forte,
voilà
Marine
ce que
Le Pen.
C'est le FN. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'elle elle surfe sur une crise qui est réelle. C'est la démagogie facile, quoi. Mais bon, qui marche. Ce qui fait la force du Front National, c'est l'absence de lutte aujourd'hui. C'est la résignation, c'est la démoralisation dans le monde du travail.
Comment vous expliquez que Jean-Luc Mélenchon, au soir des élections européennes, était sincèrement et profondément abattu, même ému. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Jean-Luc Mélenchon.
Pour moi, la France est entrée en éruption volcanique et ça commence par une pluie très acide.
le Front National en tête, c'est une information suffocante pour moi. Tout le vieux continent est en train de rouler à un abîme et à une crise de civilisation majeure. Nous sommes les spécialistes en Europe des catastrophes et des crises sociales qui tournent mal. Et je suis très triste pour ma patrie ce soir.
Vous partagez son sentiment aujourd'hui de ne pas comprendre ce qui se passe ?
Je suis un peu étonnée, quoi, qu'il ait été si étonné. Parce que quand même, quand on milite à la base, hein, tous ces gens-là, on les rencontre. Ils ne sont pas forcément... Vous savez, ils ne sont pas forcément fascistes ou nazis, mais ils disent « celle-là, on ne l'a pas essayée ». Alors qu'est-ce qu'on risque ? C'est un peu comme quand on joue au loto, vous voyez, après tout, pourquoi pas.
Et cet après-midi, l'ambiance ressemblait à celle de n'importe quel concert. Arlette Laguiller a été accueillie par ses fans comme une star.
Arlette Laguiller, vous avez été une star. Vous rendez compte, vous êtes devenue, à un moment donné, en France, une star de la politique.
Non, je ne dirais pas une star, j'ai été connue grâce
très
à...
Très connue.
Très connue, si
Une chanson, Alain Souchon, on vous a invité sur les plateaux de télévision, on vous a fait chanter « Mon petit loup » de Pierre Perret, et Pierre Perret a été ému aux larmes, on était en 93. Vous vous souvenez de ce moment-là ?
Oui, bien sûr, très bien. Je n'ai pas dormi de la nuit avant l'enregistrement, tellement j'avais peur de...
Vous étiez paniqué ?
Oui, puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais heureusement qu'il y avait un bon orchestre derrière, parce que c'était quand même pas terrible.
N'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie. Ne pleure pas, tu oublieras. Mon petit loup, ne pleure pas. Je t'emmènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées et les enfants qui savonne le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon...
C'est un joli moment.
Ouais, c'était un beau moment. D'abord, c'est une chanson que je trouve formidable.
Pourquoi cette chanson d'ailleurs ? Au début, il l'avait écrite pour les jeunes filles violées.
Violées, puis... oui, c'était pour ça. C'était une dénonciation du viol de façon très poétique. Mmh. Mais non, elle est magnifique cette chanson.
Cette notion de personnalité atypique. Vous êtes quand même l'une des seules femmes ou hommes politiques. On a envie de vous appeler Arlette, quoi.
Ouais, c'est devenu habituel, quoi.
Habituel.
Ouais. Peut-être pas les gens qui m'aiment pas, quand même.
Ah, il y en a quelques-uns qui vous aiment pas. Finalement, ils se disent, bon, quand même, elle a tenu, elle a gardé sa ligne. Il y a une forme de respect pour vous-même, sûrement, parmi vos adversaires.
Sûrement, oui, ouais. Sûrement.
D'ailleurs, un petit renseignement. Arlette, on vous a appelé Arlette Laguiller pendant des années. En fait, c'est Laguiller ou Laguiller ?
Non, c'est Laguiller.
Donc, on s'est planté pendant toutes ces années. Nous, les journalistes, voilà, les hommes politiques.
Franchement, ça, je ne sais pas, parce que moi, c'est par tradition familiale. Bon, voilà, on a toujours appelé notre famille Laguiller, donc je m'y suis tenue.
La révolution, elle n'a pas eu lieu. Elle pourrait avoir lieu un jour ?
Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si je la verrai, mais... Elle aura lieu, forcément, forcément.
Merci beaucoup, Arlette Laguiller, de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. Et à bientôt.
Ben, j'espère, oui.